100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Capin, c'est capté par son receveur! Touché! Rouge et or!
Le Rouge et or rend visite aux Stingers de Concordia ce samedi 23 septembre à 14h avec l'intention de retrouver le chemin de la victoire. Ne manquez pas l'avant-match dès 13h30 avec notre équipe composée de François Dumas à la description et Victor Marchand à l'analyse. Rouge et or Stingers, ce dimanche 14h sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et or de l'Université Laval.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, votre émission nationale d'actualité locale, Boris Chassagne qui vous accompagne. On a une émission très chargée aujourd'hui au sommaire. La Société franco-ontarienne de l'autisme est menacée de fermeture. Des parents tentent de la sauver in extremis. Les services offerts aux familles de 70 enfants autistes menacés de disparaître.
C'est sûr que c'est quand même un choc. Il n'y a pas d'autre mot. Si eux disparaissent, on n'a plus de solution.
À Toronto, deux francophones adeptes de murales, de photos et des arts de rue fixent sur leur pellicule numérique une cinquantaine d'enfants au profil multiple.
On prend des photos de gens dont les deux parents sont nés dans des pays différents et vivent dans cette troisième culture, le Canada. On est ici, en fait, et ça s'est appelé « From Here and There ».
Au Manitoba, un centre d'accueil et d'hébergement pour les enfants et adolescents victimes de violences et d'abus rouvre enfin ses portes grâce à la générosité de la communauté.
On travaille ensemble pour faciliter l'enquête criminelle et pour assurer que les enfants et leurs familles ont accès aux services de soutien pour guérir.
Et notre radar clignote de tous ces feux. On vous parle d'une vigile pour les victimes et sinistrés du Maroc et de la Libye, de soins de santé pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick et d'un journaliste haïtien qui s'est réfugié à Edmonton.
Je peux dire que le pays est gangstérisé. En fait, vous ne pouvez rien faire.
Bienvenue à Point de vue, l'actualité locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, merci de nous tenir compagnie. La Société franco-ontarienne de l'autisme, basée à Orléans, annonce qu'elle devra mettre la clé sous la porte, faute de financement. Une nouvelle qui a choqué les familles de quelques 70 enfants autistes qui bénéficient de ses services. La Société franco-ontarienne de l'autisme est d'ailleurs le seul organisme francophone de la région à offrir des programmes spécifiques pour les enfants autistes. Depuis la pandémie, l'organisme recevait plusieurs subventions, ce qui lui permettait, en retour, d'offrir les services nécessaires aux enfants autistes qui en avaient besoin, et sur la base d'un intervenant pour un enfant, une quarantaine de familles tentent de comprendre ce qui s'est passé et de trouver une solution. D'Ottawa en Ontario, l'entrevue de Marie Hillès avec Sandrine Genet, la mère d'un petit garçon qui a un diagnostic d'autisme.
On n'imagine pas que demain, honnêtement, il n'y ait plus rien pour nos enfants. C'est vraiment impensable.
La Société franco-ontarienne de l'autisme annonce sa fermeture et cesse ses activités par faute de financement. Une nouvelle qui dévaste les familles concernées. Basée à Orléans, Sandrine Genest est arrivée à Ottawa en 2020. Son plus jeune fils a un diagnostic d'autisme.
Je vous dirais, il y a 15 jours, j'ai plus la date exacte en tête, l'organisme nous envoie un courriel pour nous dire qu'il va y avoir donc l'Assemblée générale annuelle du mois de septembre, mais que la société a des difficultés et qu'ils vont probablement la fermer. Donc là, je dirais, c'est un petit peu la douche froide. Et puis, entre parents, quelques-uns, on se connaît, on s'échange des messages en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu étais au courant ?» Et on se rend compte que en fait, personne n'était au courant. Ils ont géré ça, on va dire, comme ils ont pu, eux, de leur côté, probablement en essayant de sauver les meubles, comme on dit, sauf que ça fonctionne pas. Et puis, ils nous annoncent de but en blanc qu'ils vont tout fermer. Donc, c'est sûr que c'est quand même un choc. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il n'y a aucun autre organisme sur Ottawa qui propose ce type de service, qui plus est en français, pour nos enfants. Donc, si eux, ils disparaissent, on n'a plus de solution. parce que tous les enfants autistes ou à problème ne sont pas forcément bilingues. Donc tout le monde peut pas basculer de toute façon du côté anglophone, ça marche pas. Je veux dire, un enfant qui a déjà des difficultés langagières dans une langue, on se doute bien qu'il va pas être bilingue demain. Donc ça prend du temps. Il y en a beaucoup qui seront pas capables d'aller en anglais. Et puis de toute façon, même au niveau service anglophone, ils sont déjà pas mal débordés. J'imagine que s'il y a à nouveau toute cette manne de personnes francophones qui veulent aller demander de l'aide ou des services, ça va pas fonctionner. Donc on a tous assisté à, enfin tous, une bonne partie là, je dirais, à l'Assemblée générale. Elle avait lieu le 7 de mémoire. Oui, c'est ça, le jeudi 7. Et on a posé beaucoup de questions parce que c'est vrai que on est tous un petit peu en mode panique, je dirais.
Le fils de Sandrine suit un programme spécifique avec de l'orthophonie intensive qui est proposée par l'organisation. Son quotidien a changé.
Déjà, il a des amis, ce qui est un gros changement parce que quand ils sont à l'école, ou il est à l'école primaire, ils sont pas dans des classes spécifiques à l'école primaire, ils sont mélangés avec tout le monde et les amis, ça se fait pas, ça n'existe pas ou très sporadiquement, je dirais, parce que il est différent. Donc au bout d'un moment, les amis, ils viennent un petit peu et puis ils se lassent parce que bien sûr, c'est pas du tout le même, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas la même façon de s'exprimer, c'est pas, en plus mon fils était non verbal jusqu'à 4 ans et demi, donc il a un retard de langage qui est important même s'il a énormément progressé. Et justement, à chaque fois qu'il fait ses camps, à chaque fois qu'il va le samedi matin, ça dure 3 heures quand même le samedi matin, on le sent déjà beaucoup plus confortable, je dirais, parce qu'il a pris de la confiance en lui et il parle mieux, il s'exprime mieux, il apprend des nouvelles formes de phrases, de mots, de vocabulaire. Il y a vraiment un gros changement. Et puis, il a des vrais amis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants autistes, quand ils sont dans un environnement, je vais appeler ça normal, ça leur demande des efforts énormes pour pouvoir s'adapter. Ils s'adaptent comme ils peuvent. Parce que, évidemment, en fonction des enfants, c'est plus ou moins difficile, mais peu importe, ça leur demande un capital énergie, moi j'appelle ça, qui est énorme pour s'habituer à nos codes à nous et essayer de s'intégrer dans nos codes à nous. Sauf que quand ils sont entre eux, tout ça, ça n'existe pas.
Elle souligne que c'est aussi une aide précieuse pour les parents.
C'est déjà difficile au quotidien, évidemment, avec nos enfants, peu importe leur handicap, mais il y en a pour qui c'est encore plus difficile parce que c'est très lourd, ça demande beaucoup d'énergie et parfois, d'avoir une porte de secours. C'est pas de sortie, c'est vraiment un peu de secours pour avoir quelques heures où on sait qu'il va être entre de bonnes mains, qu'il va être bien, bien conseillé, qu'il va peut-être même pouvoir progresser, parce que ça les aide aussi à grandir, à s'adapter, etc. C'était vraiment confortable de se dire, OK, je le mets là, je suis en confiance, il va pouvoir se faire des amis, sociabiliser un petit peu, apprendre des nouvelles choses. Et en tant que parent, c'est, j'ai un petit peu de temps aussi pour souffler et puis pour prendre pour moi, pour ensuite pouvoir le récupérer et puis aller me remettre en route. Mais tout ça, ça n'existera plus.
La SFOA existe depuis plus de 20 ans. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire aura lieu ce jeudi pour réélire un nouveau comité.
Puis l'idée, ça serait éventuellement de remettre en route les programmes qui fonctionnent et qui rapportent de l'argent. Notamment, c'est ceux dont mon fils fait partie d'ailleurs. Parce que les ratios sont un peu moins élevés, parce que c'est des enfants qui ont moins besoin, on va dire, d'attention. Donc, on n'a pas un ratio 1 pour 1. Donc, automatiquement, ça coûte quand même moins cher. Et puis, espérer peut-être qu'en repartant avec juste quelques programmes, on pourrait refaire partir correctement la société et puis aller chercher de l'argent pour remettre en route les autres programmes. Mais tout ça, c'est tout au conditionnel, ce que je vous dis, parce que c'est des idées qu'on a tous les uns les autres. On essaye de trouver des solutions avec qui fait quoi, qui a des compétences dans tel ou tel domaine, qui pourrait aider, qui pourrait donner un peu de son temps, qui pourrait avoir des idées, aller chercher des subventions, aller chercher des idées. Enfin, voilà, on est vraiment en mode bricolage, à essayer de remonter tout ça et essayer de faire une équipe soudée et solide avec des vraies compétences. Notamment le cabinet d'orthophonie là qui travaille bien avec la société depuis un certain temps, s'investit beaucoup parce que pour elle aussi ça lui tient à cœur, parce qu'elle voit tous les enfants et puis tout le bénéfice que ça peut leur apporter.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, petit virage plus à l'ouest maintenant, en direction de Winnipeg, au Manitoba, où le centre Toba vient de rouvrir ses portes le 6 septembre après une campagne de financement qui lui aura permis de récolter plus de 10 millions de dollars. Le centre Toba de Winnipeg offre ses services aux enfants et familles victimes d'abus et de violences. Il reçoit beaucoup d'enfants issus de différentes communautés, y compris autochtones du Manitoba. C'est un lieu où ces enfants peuvent être entendus par une équipe multidisciplinaire, soutenue et guérie. Imane Elagi, postée à Saint-Boniface, au Manitoba, en parle avec Émilie Richard, coordonnatrice au Centre Toba de Winnipeg.
Le Centre Toba, c'est un service intégré où les enfants et adolescents victimes d'abus et de maltraitance, ainsi que leurs familles, reçoivent sous un toit l'aide d'une équipe multidisciplinaire. Mm-hmm. Et on vient d'ouvrir notre nouvelle installation au Parc Assiniboine, ici à Winnipeg, mm-hmm. où on peut accueillir plus d'enfants et familles et réduire le traumatisme subi par les enfants et les offrir les services nécessaires dans un endroit, ce qui est vraiment excitant pour notre province. Notre équipe avec nos partenaires, la police, les services à l'enfant et à la famille, les services médicaux et les services communautaires. On travaille ensemble pour faciliter l'enquête criminelle et pour assurer que les enfants et leurs familles ont accès aux services de soutien pour guérir. Et avec ce modèle, le but est vraiment d'éviter de revictimiser l'enfant et la famille et aussi de faciliter le rétablissement optimal des jeunes. On travaille ensemble avec nos partenaires vraiment pour faciliter l'enquête, donc les services médicaux et des entrevues pour l'enquête font une grosse partie de l'enquête criminelle et ça se passe sous un toit au lieu de demander à des enfants et familles qui sont souvent assez traumatisés d'aller à plusieurs différents endroits. Et aussi, on a des membres de notre équipe qui travaillent avec des familles pour les offrir des services de soutien pour les années après qu'ils viennent à Toba Center. Et ça dépend vraiment de ce que les familles ont besoin. Alors, on travaille avec des organismes communautaires pour les aider à guérir. Et ça dépend vraiment des besoins des familles.
Comment les individus et la communauté dans son ensemble peuvent-ils s'impliquer et soutenir le travail du Centre Toba dans sa mission d'aide aux enfants et aux familles victimes de violences et d'abus?
Oui, on doit vraiment remercier la communauté. Vous avez vraiment relevé le défi. C'est la première fois qu'on a vraiment inclus la communauté dans la réponse au maltraitement des enfants. Mmh. Et le Centre Toba et surtout la nouvelle installation ne serait pas possible sans le soutien de la communauté. Alors, je sais que la communauté, on voit les histoires absolument terribles dans les nouvelles et on sait que la communauté veut aider et c'est sûr que la police et les services à l'enfant et à la famille ont un rôle à jouer, mais la communauté a aussi un rôle. Donc, il y a plein de façons que la communauté peut aider, comme le bénévolat, le lever de fonds ou en éduquant le public. Et vous pouvez référer à notre site web, c'est tobacenter.ca, si vous voulez apprendre plus.
Alors, nous remercions infiniment du temps précieux que nous avez accordé aujourd'hui, Émilie.
Merci à vous aussi.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Et à notre radar cette semaine, on souligne ce qui clignote à Edmonton, à Laval, au Québec et au Nouveau-Brunswick. On vous présente tout d'abord un extrait du témoignage d'un nouvel arrivant et journaliste haïtien qui s'est réfugié à Edmonton il y a 6 mois pour échapper à la violence endémique qui gangrène ce pays des Antilles. Il s'appelle Emmanuel Merson. Il a travaillé pour les radios Télescope et Nouvelle Génération. Il a aussi fondé son propre site web. Les 10 000 policiers du pays n'arrivent plus à assurer la sécurité des 11 millions d'habitants de l'île. Du 1er janvier au 15 août, il faut savoir que plus de 2 400 personnes en Haïti ont été tuées, plus de 950 personnes enlevées et 900 autres blessées selon les plus récentes statistiques des Nations Unies. On estime désormais que les gangs contrôlent jusqu'à 80 % de la capitale, Port-au-Prince, de même que les routes qui mènent à la majorité des départements de l'île Plus de 200 000 personnes ont été déplacées. Élie Nkoulou à Edmonton, en Alberta, en parle avec Emmanuel Merson.
Je peux dire que le pays est gangstérisé. Les hôpitaux ne fonctionnent pas trop bien. Des fois, vous voulez aller à l'hôpital. L'hôpital, la santé, c'est paralysé. Et les écoles, les enfants, ils aiment aller à l'école, mais à cause de la dégradation du pays, les gangs dans le pays, ils ne peuvent pas aller. On est obligé de fuir le pays parce que la majorité haïtienne, ils ont fui le pays. J'ai été attaqué par les bandits parce que dans mes émissions là-bas, j'ai parlé, c'était des émissions politiques et sportives. Donc, j'ai été attaqué après deux émissions. J'ai été attaqué, donc je me dis que pas la peine de rester. J'étais obligé de fuir le pays.
Et à Laval, au Québec, sur la couronne nord de Montréal, citoyens, politiciens et représentants d'organismes communautaires se sont réunis pour observer une vigile à la mémoire des victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye. Le Maroc qui pleure ses quelque 3000 morts et la Libye qui ne sait pas encore où le décompte va finir. On parle de plus de 10 000 morts possibles. Ce rassemblement du 17 septembre dernier a réuni des milliers de citoyens de diverses communautés venus partager leur soutien et leur compassion. L'ambassadrice du Royaume du Maroc à Ottawa et plusieurs élus des trois paliers de gouvernement ont répondu à l'appel. Mourad Malmi était sur place. Il a recueilli les commentaires d'un humoriste québécois bien connu. Il s'appelle Rachid Badouri. Il organisera des spectacles bénéfices pour les sinistrés du Maroc.
On se sent des fois impuissant à des milliers de kilomètres. Donc tout ce qu'on peut faire, toute la main à la pâte qu'on peut faire, si on peut le faire, on le fait. En tant que Marocain, c'est notre devoir. De ma part, moi, mercredi, je vais faire une annonce pour un spectacle bénéfice, un spectacle d'humoriste et un spectacle de musique, de concert de musique qu'on va mettre sur place pour le mois d'octobre pour ramasser des fonds et l'envoyer le plus rapidement possible. Donc tout ce qu'on peut faire pour ce triste événement-là, c'est notre devoir de le faire et puis on le fait, on encourage.
Et on termine ce rapide tour d'horizon en vous parlant en santé. L'équipe des soins continus de santé Nouvelle-Écosse s'engage à améliorer l'accès aux soins à domicile en français. L'équipe a présenté les résultats d'une consultation destinée à comprendre et à améliorer la qualité des soins de santé pour les Acadiens et les francophones. Le réseau Santé Nouvelle-Écosse, le regroupement des aînés et la Fédération des femmes acadiennes et francophones ont été consultés. Les trois organismes sont ravis de constater que ce travail va donner davantage accès à des programmes et services de santé en français pour les aînés. Pierre Roisney, directeur général du réseau santé de la Nouvelle-Écosse, souligne que l'amélioration des soins à domicile pour la communauté acadienne et francophone doit se faire en continu. Les recommandations de Santé Nouvelle-Écosse n'étonneront personne, mais méritent, dit-il, qu'on les souligne de nouveau. Monsieur Roisney est en compagnie de notre journaliste Daniel Aucoin à Chéticamp.
Une des considérations qui revient, qui est très importante, c'est toujours avoir du personnel bilingue à l'accueil et du personnel bilingue pendant que l'on offre des services en matière de soins à domicile. Et surtout, continuer à former et à éduquer le personnel sur les enjeux de la communauté acadienne et francophone. On a encore malheureusement beaucoup d'exemples où on a des professionnels qui ne connaissent pas l'existence, ne réalisent pas l'importance de la communauté acadienne et francophone, et du coup ne réalisent pas l'importance qu'à la langue et les enjeux, surtout pour les personnes aînées, que sont par exemple la perte de la langue seconde, l'insécurité linguistique que cela peut avoir. Beaucoup d'accent a été mis sur la question de la formation du personnel de santé.
Et pour conclure l'émission, on se rend à Toronto où deux artistes francophones, Sarah Kravetz et Pascaline Lebras, se sont intéressés au métissage et ont pris des photos des Torontois issus de parents, de jeunes Torontois issus de parents d'origines diverses. Les deux francophones ont sillonné la ville pendant plusieurs mois après avoir fait le tour de leur cercle d'amis pour aller à la rencontre des habitants de la ville reine pour leur projet From Here and There. Chaque portrait est le reflet d'un entretien au cours duquel les deux artistes ont pu découvrir les parcours familiaux des modèles exposés. À Toronto, Marine Autogali les a captés en plein montage de leur expo à ciel ouvert, présentée à Toronto.
Pinceau à colle dans les mains, échafaudage et musique sur les haut-parleurs, deux francophones, Pascaline, photographe et réalisatrice de courts-métrages, et Sarah, qui travaille en production sur la diversité, montent elles-mêmes leur exposition photographique à ciel ouvert. Il aura fallu plusieurs années de discussions intenses avec la mairie avant d'abandonner l'idée d'exposer sur le béton morne qui se trouve sur le square Nathan Phillips. Mais ces deux francophones ont trouvé un partenariat au cœur du quartier branché de Geary, dans une allée aux briques rouges. Pascaline et Sarah ont entrepris d'y monter leur projet photographique, une initiative du photographe international JR qu'elles ont pu s'approprier.
En ce moment, on est dans Geary Avenue, qui se situe plus dans le nord de Toronto, vers Dupont Street. C'est une rue qui est assez industrielle. Et ce qu'on est en train de préparer, c'est dans le cadre du Geary Art Crawl qui va avoir lieu ce week-end, le 23 et 24 septembre.
Ouais, on est au 222 Geary, qui est devenu un peu artsy, donc c'est industriel, mais il y a aussi une espèce de vibe un peu nouvelle. Il y a des cool restaurants, des trucs un peu plus artistiques, il y a des studios de photos, etc. Et donc, on a été approchés par la Geary Art Crawl, on les connaît très bien, parce qu'ils savaient qu'on cherchait un mur, et donc ils nous ont proposé ce mur-là. Et comme c'est aussi en parallèle avec la Nuit Blanche, ça fonctionne.
Est-ce que tu peux me dire à quel moment le projet est né?
Le projet est né en novembre 2021. On était toutes les deux chez Pascaline en se disant « Bon, on manque un peu de créativité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, Pascaline m'a dit
« Inside Out Project ». Donc, Inside Out Project, c'est un projet qui est à l'initiative du photographe français JR, qui a commencé il y a plusieurs années. Et qui a démarré en faisant des initiatives de photos, ce qu'il est photographe lui-même. Et il est parti dans différents lieux du monde pour photographier des communautés de certaines régions, de certaines villes dans le monde entier. Et avec ça, c'est devenu tellement populaire qu'il a demandé à la communauté internationale s'ils ont un projet qu'ils veulent mettre en avant, une communauté qu'ils veulent mettre en avant où ils habitent. Ils peuvent aussi faire leur propre Inside Out Project. Donc ça a été un peu un rêve que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis photographe. Et donc quand Sarah m'a dit « c'est l'hiver, je m'ennuie, j'ai besoin d'un projet artistique créatif, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Je lui ai dit « bah si tu veux, on collabore sur ce projet, on fait notre propre Inside Out Project. » Et c'est donc là qu'ensuite, en discutant,
elle m'a dit « faisons une action ». Et donc je lui ai dit « ok, si on fait une action, on prend des photos de gens dont les deux parents sont nés dans des pays différents et vivent dans cette troisième culture, le Canada. Ils sont nés ici, en fait. Moi, ça a toujours été très, très, très important pour moi. C'est ce que j'étudie, le multiculturalisme, mais plus particulièrement la rencontre des cultures et encore plus dans le cadre familial. Donc, je lui ai dit, OK, bon, on fait comme ça. Et puis après, on a trouvé le titre. On a discuté un petit peu. On a commencé à chercher autour de nous. Et ça s'est appelé « From Here and There ».
Donc, ce n'est pas JR qui prend les photos, mais comment le projet est lié à JR et comment, vous, votre liberté, elle s'exprime dans les photos?
Alors, on a quand même des restrictions à ce niveau-là qui se font. Donc, on est les personnes qui font les photos, on est les personnes qui organisons l'action dans le sens où on va être en relation avec nos sujets qu'on va photographier en fonction de qui on veut mettre en avant. Mais ça va être quand même ce qu'ils appellent Global Art Project, dans le sens où ça va quand même être un projet qui est organisé par JR. Donc, nous, on prend les photos, on est en lien avec nos sujets et ensuite, on est en connexion avec l'équipe de Inside Out Project pour être sûr que c'est aligné avec eux, leurs valeurs et le message qu'ils veulent passer pour que ça reste quand même harmonieux entre ce qu'eux, ils ont créé et nous, ce qu'on fait. Et ensuite, au niveau visuel, on a seulement requirement. Oui, une exigence, voilà. On est à Toronto, on parle plus Toronto français. On a une exigence au niveau visuel, c'est d'avoir le fond qui est le même pour chaque portrait, où ça sera des pois noirs et blancs qui est un peu la signature de JR avec ces projets-là.
Nous, on a décidé d'avoir les pois noirs et blancs qui sont hyper JR. Moi, je dois dire qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ils étaient hyper présents. Si on avait la moindre question jusqu'à aujourd'hui, quand on leur a dit qu'on allait installer, ils nous ont envoyé plein de documents pour nous aider, etc. Ils sont vraiment hyper efficaces. Ça a été assez facile de travailler avec eux. Mais aussi, on était très libres. C'est-à-dire que le sujet, si tu veux, sur le site Internet, il y a tout un petit schmilblick qu'on a écrit. Ils n'ont eu aucune modification. On était très libres à ce niveau-là. Et du moment que ce n'est pas commercial, ça leur va, en fait. C'est communautaire, c'est ce qu'ils supportent.
Et comment, du coup, vous avez relié cette communauté? Comment vous avez contacté les personnes? Et si les portraits montrent les personnes que vous avez photographiées, comment est-ce qu'on s'approche de leur histoire?
Alors, on a commencé par autour de nous. Déjà, il y a ma fille, qui est française-irakienne. Moi, je connaissais des gens. Pascaline avait des gens autour d'elle. On a posté sur Facebook. On en est même arrivé à la fin à faire le festival de Little Italy dans la rue avec un panneau. Est-ce que tes parents sont nés dans deux pays différents? On a eu plein de... On en a eu 7 ou 8 ce jour-là. Il y a des gens qui nous ont référés. Voilà, ça s'est fait comme ça. Puis ça s'est fait sur bien 6 mois, à peu près. Pas tous les jours, hein. On allait chez les gens, puis c'était... On se déplaçait, on allait dans les familles, ou alors ils venaient vers nous.
Au festival, par exemple, c'était sur place, les photos?
Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le background, le backdrop, le fond de noir et, en noir et blanc, on l'a fait sur on l'a imprimé, en fait, sur un papier cartonné, qu'on puisse l'emmener à chaque fois qu'on allait chez les gens. On a fait beaucoup de photos chez moi aussi, je me souviens. C'était un peu un mélange des deux. Mais quand on était dans la rue, ça a été vraiment l'idée d'une action spontanée sur place où on avait notre signe. Les gens étaient curieux de savoir ce que c'était. Et ensuite, quand on leur demandait, naturellement, on me disait « Ouais, ouais, je suis dans cette catégorie-là. » Donc, on leur a demandé « Est-ce que vous avez envie de faire partie de ce projet ?» Et on était littéralement dans la rue à prendre la personne en photo. Et de manière générale, toutes les photos qui ont été prises, il y avait aussi une conversation qui s'est faite. On n'a pas juste pris leurs photos. Donc moi, je prenais les photos et Sarah était plus à leur poser souvent les mêmes questions pour avoir quand même de thématiques qui se font, que ce soit comment ils ont grandi avec deux cultures, comment ça s'est passé, quelles relations ils ont avec la langue de ces deux cultures, avec la nourriture, avec la religion. Il y avait tout type de thématiques qui ont été abordées dans ce contexte-là. Mais il y avait vraiment un lien qui se faisait entre nos sujets, même si des fois on les connaissait, c'était soit des connaissances directes, soit du bouche à oreille par l'intermédiaire d'amis. Mais des fois, c'était des gens complètement étrangers. Mais on avait toujours cette connexion qui se faisait. Et ce qui était vraiment super, c'était comment ils étaient ouverts à partager. Ils avaient leur fierté de raconter leur histoire, de nous en dire plus sur ce que c'était. Et
ouais, en fait, ce qui était important pour nous, c'était qu'on n'ait pas des pauses vraiment caméra, photo. Et donc, on a introduit l'idée de l'interview audio, ce qui était important de collecter ces histoires aussi. Et aussi, ça nous permettait d'avoir des réactions. Donc, vous le verrez sur le mur, mais pas poser regard caméra, mais plutôt de la nostalgie, du rire, du souvenir. Et donc, on les a amenés. Les conversations allaient dans toutes sortes de directions. Ça dépendait. On commençait toujours par « Où est né ton père ? Où est née ta mère ?» Et puis après, on partait sur la langue qu'on parlait à la maison, l'intégration, pourquoi ils sont arrivés au Canada, comment. Vraiment, ça a pris toutes sortes de directions. Mais c'est vrai que le fait qu'ils ne parlaient pas d'eux directement, mais plutôt l'histoire d'amour de leurs parents, je ne sais pas, il y avait une liberté, puis une compassion, une fierté aussi pour l'histoire de leurs parents. Et c'était vraiment beau.
Ce qui était intéressant aussi à ce niveau-là, c'est eux-mêmes de refléter sur ces questions qu'ils ne se sont jamais posées, parce que pour eux, ça fait juste partie de la façon dont ils ont grandi. Et les questions qu'on avait pour eux les ont amenés à refléter sur des choses qu'ils n'ont jamais réalisées, que ce soit le privilège de grandir avec deux cultures, en tout cas leur privilège à eux, leur interprétation de ça, et de voir qu'en fait, bah, ils ont cette chose qui font qu'ils sont d'un individualisme, ça crée leur identité unique à eux-mêmes d'avoir cette dynamique-là quand ils ont grandi, quoi.
Au total, vous avez pris combien de portraits et il y en a combien qu'on pourra voir ce week-end?
On en a pris 55 et je pense que vous en verrez 55.
Et l'expo, elle dure jusque quand?
L'expo, c'est un peu comme une expo intemporelle puisque ça va dépendre de la météo. Donc, on va lancer l'installation ce week-end pendant Gary Art Crawl. Donc, c'est un peu le lancement officiel ce week-end-là dans le contexte du Art Crawl. Mais comme ce sont des posters qui sont collés sur un mur en extérieur, on n'a pas de date limite en termes de les enlever. Donc, ça va être plus la météo torontoise qui va décider de ça. Et ça peut rester 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça va dépendre de la qualité de notre collage.
Il vous en reste combien à coller, vous savez?
Alors là, on en a fait 20. Non, je pense qu'on dirait, je dirais peut-être 30, 35. Ouais, on en est un petit peu moins que la moitié, mais on a un rythme qui fonctionne. On vient de manger nos tacos, ça devrait aller.
On va se prendre là.
La météo est avec nous aussi. On a la bonne humeur, on a les amis ici pour nous aider, donc tout va bien.
C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Nos reporters, Daniel Aucoin, Eline Koulou, Marie Hilès, Marine Autogali, Iman Elagi et Mourad Malmi, coordonnateur national Stéphane Bénard à Moncton. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Venez nous voir sur canada-info.ca et restez à l'écoute de l'émission qui suit. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?